Alexandra Ben Saïd.
Well, thank you, Jean-Claude.
Mais est-ce que les Brexiters disent thank you à Theresa May? Accord hier entre Londres et Bruxelles, si vous voulez bien, on se fait un point, même deux points. D'abord, l'ardoise, le divorce, ce serait donc 40-45 milliards d'euros, le double de ce que proposait le gouvernement britannique et sans doute le maximum de ce que peut dire aujourd'hui ce gouvernement à ses citoyens qui ont voté justement pour ne plus donner un sou à l'Union européenne.
Après, vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais.
Ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques.
Deuxième point souligné sur cet accord d'hier, les règles européennes. Avec le Brexit, souvenez-vous, le Royaume-Uni devait enfin pouvoir s'affranchir de ses règles européennes. Mais hier, donc, à cause de l'Irlande du Nord, ou bien grâce à l'Irlande du Nord, le compromis est allé très loin. Pour faire simple, jusqu'à nouvel ordre, Londres pourra sortir du marché unique, mais en pratique, Londres devra continuer à appliquer les règles du marché unique, par exemple pour la concurrence, les brevets, les marques. Bref, ce matin, les Brexiters crient à la capitulation, à l'humiliation. Et les Remainers, eux, ils dénoncent les marchands d'illusions. À ce sujet, je vous conseille de regarder la scène hallucinante cette semaine du ministre du Brexit devant une commission parlementaire britannique. La commission questionne : où sont les études d'impact sur l'économie ? C'est la question. Il n'y en a pas, aucune, sur aucun secteur. Ça, c'est la réponse.
C'est votre ultime bafouille ?
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Ouais, c'est hallucinant cette scène de David Davis devant sa commission parlementaire. Jérémy Younes, notre attaché de production, va vous mettre la vidéo sur Twitter. Tiens, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour parler d'économie. Le magazine est réalisé par Coy Nguyen. Et ce matin, à la technique, c'est Léo Prangère qui nous accompagne. Je salue les débatteurs autour de cette table. Emmanuel Lechypre, BFM Business, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Et Christian Chavagneux, Alternatives économiques, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce rapport controversé sur le SMIC est-il un problème? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble à une réflexion d'économiste, mais on pourrait être surpris, ça pourrait aller plus loin, Emmanuel, dans les mois à venir?
C'est un rapport qui est politiquement terriblement ambitieux et qui, sur le plan économique, manque terriblement, au contraire, d'ambition.
Débat. Christian Chavagneux, oui.
Alors, Gilbert Sept, depuis 10 ans, veut détruire le SMIC. Il est nommé à la commission d'experts du SMIC. Donc voilà, on s'y attendait tous.
Quelle
nous,
caricature.
On a écrit au mois d'août qu'il allait proposer ça bientôt. Donc voilà, on ne s'est pas trompé.
On se retrouve dans une poignée de secondes pour un débat qui, je le sais déjà, sera argumenté. Une réforme à 30 milliards d'euros, c'est la réforme de la formation professionnelle, le maquis des organismes, des financements. Comment faire pour simplifier? Vous entendrez le reportage de Manuel Ruffez. En 2017, une question qui reste malheureusement au cœur de notre société occidentale riche, c'est la question de la lutte contre la pauvreté. Mon invité ce samedi, c'est Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur. Interview vers 9h45. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Vous avez une question de Thierry, qui est chef d'entreprise, qui vous a écrit.
Et oui, on lui demande de faire une saisie sur salaire. A-t-il le droit de refuser?
Ma vie au boulot, ça sera vers 9h55. Mais tout de suite, nous vous donnons les clés du débat. Quel est le problème avec le SMIC?
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
Le SMIC est-il trop élevé?
5 décembre 2017.
C'est ce qu'estime le groupe d'experts qui conseille chaque année le gouvernement. Les économistes considèrent qu'il est trop haut.
Ce que nous montrons,
Gilbert Sept,
c'est qu'une augmentation du SMIC bénéficie très peu aux pauvres.
Président du groupe d'experts sur le SMIC.
Et des dispositifs ciblés sont beaucoup plus adaptés pour s'attaquer aux problèmes de la pauvreté. Et je pense par exemple à la prime d'activité.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre,
Sabine Rubin,
un groupe d'experts a rendu hier un rapport enjoignant le gouvernement à désindexer le SMIC de l'évolution générale des salaires.
Député de Seine-Saint-Denis, la France insoumise.
Comprimer le salaire réel des plus pauvres, c'est anémier une demande solvable reposant essentiellement sur la consommation des ménages. Refuser de revaloriser le SMIC, c'est laisser passer sous le seuil de pauvreté une masse considérable de travailleurs avec son lot de misères quotidiennes.
Quand on parle de SMIC,
Muriel Pénicaud,
nous ne devons pas nous précipiter.
Ministre du Travail.
Mais nous devons pouvoir en discuter en maintenant le cap pour le pouvoir d'achat et pour la cohésion sociale. Le rapport est aussi une contribution utile et ses propositions sur l'indexation du SMIC vont s'intégrer dans les réflexions en cours qui sont d'ores et déjà initiées par le gouvernement.
Depuis des années, il y a une augmentation automatique du SMIC.
Pierre Gattaz.
Ce qui n'est pas très bon pour le coût du travail en France.
Président du MEDEF.
Nous, ce qu'on suggère, c'est que, bien évidemment, il faut le faire augmenter. Mais le faire augmenter par le partage des richesses. Et il faut que les entreprises, en effet, puissent, par l'intéressement, la participation, dire « il y a eu du profit cette année ». Eh bien, je donne des bonus ou de l'intéressement aux salariés.
Moi, je ne peux pas penser du bien de ces conclusions, évidemment.
Brigitte Bourguignon.
Puisqu'on est toujours dans cette nécessaire revalorisation de tous les minima.
Députée du Pas-de-Calais, La République En Marche.
C'est assez classique comme conclusion. C'est une conclusion qui n'engage que ce groupe d'experts.
Le débat ne date pas d'hier, il date du 19e siècle.
Henri Guénaud.
Pour ceux qui pensent qu'il faut mettre les travailleurs en concurrence comme les marchandises, le SMIC est toujours trop élevé.
Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy.
Une question alors se pose. Parmi ces experts, lequel pourrait vivre avec moins de 1150 euros par mois? Réponse, aucun. Alors la question de la baisse du SMIC ne se pose pas.
Une spéciale dédicace pour Christian Chavagneux qui a dit que Henri Guénaud avait écrit le meilleur livre d'économie ou un des meilleurs livres d'économie en 2016, c'était l'année dernière. Christian Chavagneux, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, on ne dit plus SMIC depuis 1970. Christian, faites-nous la photo s'il vous plaît en 2017, qui est payé combien exactement au SMIC?
Donc faut savoir SMIC. Que le SMIC c'est un taux horaire hein, on est payé juste à l'heure, on peut travailler 35, 28, donc ça assure pas un salaire minimum au mois, mais à l'heure, donc c'est 9,76 euros brut, ce qui fait 1480,27 euros pour être précis mensuel brut, mais comme l'a dit Henri Guénaud, ça fait 1140 euros net de SMIC. Il y a à peu près 1,65 million de personnes dans le secteur privé qui sont payées au SMIC, mais vous avez aussi des intérimaires, des fonctionnaires en tout, donc on pense qu'il y a plutôt 2,5 millions de personnes en France qui touchent le SMIC, ça fait à peu près 10-11% de la population active. Évidemment, c'est plutôt dans les petites entreprises, dans les TPE. Dans la restauration rapide, c'est très inégalitaire selon les secteurs. Dans la restauration rapide, c'est 65% des salariés qui sont concernés. Ça touche beaucoup les femmes, en fait.
Absolument.
55% ouais. Des smicards sont des smicardes. Et vous avez... Alors moi, je pensais que c'était les femmes de ménage qui n'étaient pas bien payées. En fait, on a eu la dernière étude de la DARES qui donne tous ces chiffres, qui vient de sortir, donc spécial hier soir à 9h, donc plutôt ce matin, juste pendant on n'arrête pas l'écho. Les femmes de ménage, en fait, sont... assez âgées et grâce à leur âge, elles sont plus au SMIC. Et en fait, c'est le secteur des bureaux d'études et de services aux entreprises où il y a 67% de SMICards, c'est-à-dire des jeunes qui travaillent, des jeunes femmes qui travaillent chez les indépendants pour faire de l'aide aux entreprises. Et c'est là, en fait, qu'on trouve la proportion de SMICards le plus élevée dans les secteurs français.
Emmanuel Le Chypre, que voulez-vous ajouter à cette photo?
La question, c'est pas tellement celle du salaire minimum, c'est la question des défauts du salaire minimum à la française. Parce qu'effectivement, parmi les gens qui défendent le SMIC, alors il y en a beaucoup qui vous disent oui, ça existe aussi à l'étranger, etc., ce qui est totalement vrai, mais il y a quand même des spécificités françaises. Alors il y a la spécificité du mode de calcul, il faut savoir que le SMIC, il est revalorisé tous les ans avec un système quasi automatique, et ça c'est le cas de beaucoup de pays, mais nous, il y a une double règle d'augmentation du SMIC au-delà de l'indexation automatique, qui est aussi, on prend en gros en compte l'évolution de la moitié du taux de salaire horaire des ouvriers et des employés, et ça on est les seuls au monde à le faire. Et au fond, quel est le problème historiquement de notre SMIC? C'est que il est censé protéger les plus faibles pour leur garantir un revenu minimum. Et encore une fois, la question n'est pas de débattre, comme le fait avec démagogie Henri Guénaud, que j'adore par ailleurs et que je confirme que son bouquin était formidable. C'est pas de dire, est-ce que vous pouvez vivre avec tant par mois? La question, c'est de
on
dire...
On va avoir du courrier. Avec
oui,
cette phrase, rien qu'avec cette phrase,
question,
on va avoir
de
du
dire
courrier.
Comment faire pour corriger les défauts du SMIC et garantir quand même aux salariés un revenu correct? C'est ça la question. Parce que le vrai problème, il est où? Le vrai problème, il est que depuis qu'il existe, le SMIC a été considéré comme le seul outil de politique salariale par les gouvernements divers et variés. Ce qui fait que en 40 ans, le SMIC a augmenté de façon déraisonnable à cause de tous les coups de pouce politiques qui ont été donnés. Alors c'est vrai que ça s'est calmé ces dernières années, notamment sous François Hollande, mais rappelez-vous, sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, etc., il y en avait énormément.
Donc
le résultat, le résultat, c'est que le SMIC, très vite, le résultat, c'est que le SMIC, il a augmenté 3 fois plus vite que le salaire moyen depuis 40 ans, qu'aujourd'hui il est trop élevé, notamment par rapport au niveau de qualification des moins diplômés. Et donc, c'est un véritable piège. C'est une machine à fabriquer des chômeurs et des travailleurs pauvres. Pourquoi ? Parce que comme il est trop élevé, on a donné aux entreprises des allègements de charges absolument incroyables autour du SMIC, autour de 1,5 à 1,6 SMIC, et que du coup, les patrons, ils n'ont aucun intérêt à faire passer leurs salariés au-dessus de 1,5 à 1,6 SMIC. Donc, le SMIC, un, il vous protège pas de la pauvreté ni du chômage, et deux, vous êtes sûr d'y rester quasiment toute votre vie. C'est ça le scandale du SMIC français.
C'est la trappe à bas salaire. C'est le fait qu'on soit bloqué au SMIC. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, évidemment, Emmanuel. Donc, on a le problème du pouvoir d'achat avec le SMIC. Ouais. Cette question, quand même, de...
Mais il y a des solutions pour ça.
Le problème du pouvoir d'achat. Il y a, vous n'en avez pas parlé, la comparaison internationale, évidemment. Les SMIC, le SMIC français par rapport au SMIC européen. Il y a...
On est dans le tiers le plus haut, à peu près.
Ouais.
On n'est pas le plus haut, mais on est dans le tiers le plus haut.
Et puis, il y a la question, donc, du coût du travail. Hein, elle vient là-dedans. Christian Chavagneux, par où est-ce que vous voulez commencer pour répondre à Emmanuel?
On a trop augmenté le SMIC au cours des 30 dernières années. Là, je suis désolé, je vais faire mon guéno, hein, 1100 euros par mois. Si on l'avait trop augmenté, si on l'avait pas trop augmenté, je sais pas où on en serait. D'ailleurs, je vais vous citer une étude très sérieuse, publiée dans Économie Statistique. C'est la revue très sérieuse de l'INSEE et publiée par un économiste absolument hors de tout soupçon, puisqu'il s'appelle Gilles Berset. D'accord? Gilles Berset, dans
Alors,
une
Gilles
étude.
Alors, Gilles Berset, il faut rappeler donc que c'est le président de la commission des experts qui vient de rédiger le rapport controversé dont on parle ce matin.
Et qui, depuis 10 ans, veut casser le SMIC. Et donc, Gilles Berset, dans Économie et Statistique, revue très sérieuse de l'INSEE, donc voyez, je prends mes sources au mieux. Il a publié une étude qui regarde l'évolution du SMIC de 1970 à 2010. Emmanuel nous a dit, le SMIC, comment il évolue? Bon, il y a deux grandes évolutions. On regarde l'inflation des 20% les plus pauvres, d'accord? Et puis, on essaie de suivre cette inflation. Plus, on regarde on prend la moitié de l'évolution du salaire des ouvriers, des employés, comme l'a rappelé Emmanuel. Et puis, les gouvernements, s'ils veulent, ils donnent un petit coup de pouce supplémentaire. Et donc, Gilles Berset, il a fait un travail très utile. Entre 1970 et 2010, le SMIC a augmenté. Pourquoi? Est-ce que c'était les coups de pouce? Est-ce que c'était parce que le salaire des ouvriers augmentait? Ou est-ce que c'était parce que l'inflation augmentait? D'accord? Quelle était la raison? Et donc, il nous dit, 60% de la hausse du SMIC, c'est dû à l'indexation grâce à l'inflation. Un quart, c'est les coups de pouce du gouvernement, et le reste,
c'est
parce que,
oui.
Voilà, un petit geste politique, et puis le reste, c'est parce qu'on ne voulait pas trop que le SMIC décroche du salaire ouvrier. Prenons la proposition de Gilles Berset. La proposition faible et la proposition forte. La proposition faible, c'est on va arrêter de suivre le salaire ouvrier. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire pour le niveau du SMIC aujourd'hui, si on ne l'avait pas fait? Puisque c'est ce qu'il propose pour l'avenir. Donc, je rappelle, on a un SMIC à 1140 euros aujourd'hui. Eh bien, on l'aurait à 914 euros aujourd'hui. Si on l'avait concrètement, les gens, au lieu de vivre difficilement avec 1140 euros, ils devraient vivre avec 940 euros.
Mais on aurait
euros.
Beaucoup moins de chômage.
Allons plus loin.
On va y aller après, Emmanuel.
Allons plus loin, parce que, quand même, la deuxième proposition du rapport d'experts, c'est pas simplement de dire arrêtons de faire que le SMIC reste collé au salaire des ouvriers et des employés. Supprimons toute forme d'indexation. D'accord? Supprimons. Si on avait supprimé toute forme d'indexation, le SMIC, aujourd'hui, il serait à 424 euros. Donc, les conditions concrètes de la proposition du groupe d'experts, c'est ça. Vous vivez entre 400 euros et 900 euros par mois. Donc ça, je pense déjà qu'en termes de lutte contre la pauvreté, dire ne pas avoir monté le SMIC, enfin avoir monté le SMIC, ça sert à rien que dans la lutte contre la pauvreté, entre vivre avec 1100 euros par mois et vivre avec 400 euros par mois, je pense que c'est très très différent. Ça, c'est le premier point.
En effet, il y a deux propositions dans ce rapport, sur soit changer le mode d'indexation, soit ne plus faire d'indexation automatique du tout. Qu'est-ce que ça veut dire si on fait plus d'indexation automatique? Ça veut dire que tout est dans les mains du gouvernement?
C'est ça, ça veut dire que tout est dans les mains d'un éventuel coup de pouce sur 4 ans ou 5 ans.
Emmanuel Lechypre.
Alors, moi, je note d'abord que Gilles Berset avait beaucoup plus d'attrait aux yeux de Christian quand Gilles Berset a été un des principaux artisans des 35 heures. Parce qu'il faut voir que la cohérence de la pensée de Gilles Berset, c'est l'emploi. C'est quelqu'un dont la volonté est de dire comment on fait pour réduire le chômage et d'aller au-delà de tous les tabous du type le SMIC, comment voulez-vous vivre avec moins que le SMIC, etc. Et on va revenir sur les solutions.
Comment faire?
Donc voilà, donc Gilles Berset, lui, c'est l'emploi. Et à l'époque, il défend l'idée pourquoi il a voulu les 35 heures, parce qu'à l'époque, il y avait des gains de productivité, etc., qui permettent était de le faire. Et donc, voilà. Et puis dire que c'est ce comité-là composé avec ces économistes-là qui proposent ça, c'est pas vrai, puisque tous les comités d'experts, grosso modo, proposent la même chose. Et quand on parle des chiffres globalement, là encore, si vous compilez à peu près toutes les études qui essaient de mesurer l'impact de la hausse du SMIC sur l'emploi, vous arrivez, grosso modo, quand vous augmentez le SMIC de 1%, les plus faibles vous disent que ça détruit 3000 emplois, les plus pessimistes vous disent que ça en détruit 40 000.
Alors, pas du tout d'accord. Hein.
Alors, encore une fois, le SMIC est une machine à fabriquer du chômage et des travailleurs pauvres. Alors, une fois qu'on a dit qu'effectivement, on pouvait pas vivre avec moins par mois, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait?
Exactement, qu'est-ce qu'on fait,
bilan emploi, Emmanuel a été assez vite. Moi, je partage pas du tout le bilan emploi. Quand vous avez André Zilberberg, donc, qui fait partie de cette commission d'experts, qui remplace Pierre Cahuc à la commission d'experts, c'est les deux mêmes, ceux qui nous ont fait le bouquin sur le négationnisme économique, dans lequel il y a une partie qui dit, dès qu'on augmente le SMIC, ça détruit l'emploi, avec les chiffres que vient de donner Emmanuel. Alors moi, j'ai regardé quand même d'un peu près, il cite une étude, une seule étude qui porte sur 82-89 pour nous dire que le SMIC détruit l'emploi.
Non mais ça, c'est l'hypothèse à 40 000, Christian. Il y a plein d'autres études qui sont alors, entre 3 000 et 40 000.
Du coup, j'ai regardé les autres études et il y a deux études qui viennent de sortir aux États-Unis parce que ce qui est bien aux États-Unis, c'est que le SMIC est différent selon les États. Et donc, vous avez des bassins d'emploi qui sont extrêmement proches, qui ne coupent pas la frontière d'un État américain par rapport à un autre. Et vous avez des gens qui sont au SMIC dont le SMIC augmente beaucoup. Et à côté, vous avez des gens au SMIC dont le SMIC n'augmente pas. Donc, on peut voir tout de suite s'il y a un effet sur l'emploi d'augmentation du SMIC ou pas. Deux études sont sorties cet été aux États-Unis, une qui dit ça détruit de l'emploi et l'autre qui dit ça détruit zéro emploi. Donc il n'y a pas du tout de conclusion empirique ferme. En Italie, il n'y a pas de salaire minimum, d'accord ? Et le taux d'emploi de ceux qui sortent de l'école en troisième, c'est-à-dire vraiment très très peu qualifiés, le taux d'emploi en France, il est de 50% avec le SMIC, alors qu'en Italie, puisqu'il n'y a pas de SMIC, il devrait être bien plus élevé et il est de 50% aussi. Donc vous voyez bien que même dans les pays où il n'y a pas de SMIC, ça ne compte pas pour l'emploi.
Emmanuel Le Chipre, j'aimerais vous entendre.
Non, mais les comparaisons, c'est la réalité, c'est qu'il y a des problèmes de niveau qui font que les problématiques ne sont pas les mêmes entre les pays, que le financement, pourquoi ça coûte cher aux entreprises? Parce que le financement de la protection sociale est assis là-dessus. Donc voilà, donc généraliser, dire tel pays, non, c'est pas vrai. Après, les solutions, on sait très bien.
Pauvreté, aux États-Unis, Emmanuel, ça fait plusieurs fois que vous dites la pauvreté. Oui. Comment vous feriez si vous baissiez le SMIC?
Puisque c'est un pays que Christian souhaite prendre comme référence, comment ils ont fait? En fait, ils ont distingué, et c'est bien ça qu'il faut essayer de faire comprendre, qu'il faut distinguer ce qu'est le salaire minimal, c'est-à-dire ce que l'entreprise verse aux salariés, du revenu minimal, c'est-à-dire l'ensemble des sommes que perçoit le salarié. En combinant, en fait, c'est ça qu'ils font aux États-Unis, ils combinent à un SMIC plus faible une fameuse prime. Ce que Gilles Berset appelle la prime, une super prime pour l'emploi, un complément de salaire qui fait que vous avez un revenu décent, mais que votre employabilité augmente. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce dispositif aux États-Unis? C'est un dispositif qui est quand même en vigueur depuis 1975, donc on connaît les effets. Bah, vous avez 50 millions de personnes, et notamment des mères célibataires, qui échappent à la pauvreté avec des compléments de revenus qui atteignent jusqu'à 40% du salaire. Donc, vous voyez qu'il y a des dispositifs qui permettraient...
Compléments de revenus payés par le budget de l'État. Hein,
oui, mais donc, c'est le système d'impôt négatif. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil de revenus, c'est l'État qui vous fournit un complément de revenus. L'avantage de ça, c'est qu'à la fois vous avez un revenu décent et que vous avez beaucoup moins de chômage. Donc vous avez corrigé les effets du SMIC.
Sauf que c'est très difficile, on sait bien, de corriger les inégalités primaires. C'est-à-dire au moment où on verse le salaire, c'est très difficile de les corriger après. Et d'ailleurs, la prime d'activité progresse encore moins vite que le SMIC. C'est-à-dire que même avec les minima sociaux, vous avez beaucoup, beaucoup de mal à vivre. Et rappelons quand même que sur les 10 dernières années, la progression du SMIC, en gros, ça a été 0,4% par an en moyenne, inférieure à la croissance du salaire moyen. On est déjà en train de faire décrocher les smicards par rapport au reste de la population. Je suis pas sûr que ce soit avec ça qu'on lutte contre la pauvreté.
Emmanuel, il y a un point, il y a deux propositions qui sont souvent faites. C'est est-ce qu'il faudrait pas régionaliser le SMIC?
Ça existait, et faire un
SMIC jeune. Le problème, oui, mais pourquoi ils ne proposent pas la régionalisation du SMIC? C'est qu'en fait, on s'aperçoit que ce qui fait la différence de niveau de vie entre les régions, c'est surtout le logement et le loyer. Et le logement et le loyer, il dépend pas d'une région, il est très variable selon les villes.
Exactement.
Et donc, il faudrait carrément 36 000 SMIC différents si on voulait tenir compte de cette correction. Et puis, le SMIC jeune, c'est vraiment une façon de sortir par le bas.
Ça n'est pas dans le rapport.
Mais non, c'est pas dans le rapport. Mais ils disent pourquoi? Ils disent parce que c'est sortir par le bas d'une problématique qu'on veut au contraire améliorer avec la formation et l'apprentissage.
Alors, dernière question. Ça, c'est donc un rapport d'experts indépendants. On a quand même entendu Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, dire « Oui, on va prendre en compte ce rapport plus tard au printemps avec la loi entreprise de Bruno Le Maire. » C'est ça qu'on a compris, Christian Chavagneux.
Au début, la première action, c'était de dire le premier jour de sortie du rapport « On touche pas ». Et puis après, la petite musique commence à s'installer. On voit bien que c'est cousu de fil blanc. Oui. On a nommé un rapport d'experts avec des gens dont on connaissait déjà la conclusion. Et maintenant, on va dire « Les experts nous disent que ». Donc, c'est vraiment une petite hypocrisie politique qui n'est pas à la hauteur de ce gouvernement.
Si on fait à minima quelques propositions sur moins d'indexation, etc.
Ouais, c'est vraiment à minima, vous avez raison.
On sera grosso modo débarrassé de ce problème de SMIC trop élevé avec les défauts qu'on connaît d'ici une vingtaine d'années.
J'aimerais qu'il y ait une image sur Christian Chavagneux.
Allez, on referme
mais
pour
on sera
le
là encore dans 20 ans pour en parler.
Mais vous serez surtout là au printemps pour en parler. On ferme le dossier SMIC, on va voir comment l'écho se passe ailleurs. Et ce matin, je vous emmène outre-Rhin. Les salaires sont aussi un sujet en Allemagne. Dans l'industrie, les patrons allemands se préparent à la plus dure négociation salariale de ces dernières décennies. Mais dans le fond, si on regarde bien, la pomme de discorde, ça n'est pas tant l'argent que le temps.
Schönen guten Morgen.
Hallo zum Rhein-Morgen.
Schönen guten Morgen, Nathalie Versieux.
Guten Morgen.
Nathalie, vous êtes la correspondante de France Inter en Allemagne. Alors, les salariés de l'industrie de l'électronique et de la métallurgie sont près de 4 millions. Et leur syndicat très puissant, IG Metall, demande une augmentation des salaires de 6%. Et surtout, ce qu'on retient ce matin, c'est qu'ils demandent la semaine de 28 heures.
Oui, oui, effectivement, c'est une revendication centrale d'IG Metall cette année, davantage de flexibilité du travail, mais au profit cette fois des salariés. IG Metall enfourche donc à nouveau le cheval de bataille de la réduction du temps de travail, et ce, 23 ans après avoir obtenu la semaine de 35 heures à l'issue, il est vrai, d'une lutte de 18 années. Alors l'idée d'IG Metall, c'est que les salariés pourraient ne travailler que 28 heures pendant 2 années maximum, sans avoir à fournir d'explications à leur employeur. Le retour au plein emploi devrait être garanti au bout de ces 2 années. IG Metall rappelle que quantité de salariés souhaitent avoir plus de temps libre pour s'occuper de leurs enfants, de parents dépendants, par peur de surmenage ou pour se former. Et IG Metall demande que dans les premiers cas, lorsque la semaine de 28 heures serait demandée par le salarié pour des raisons familiales, le salaire soit partiellement maintenu. Et ça, c'est vraiment un point qui est inacceptable pour le patronat.
Alors vous devancez ma question, Nathalie, comment réagissent les patrons ?
Alors la fédération patronale de la branche Gesamtmetall n'a pas répondu par un non catégorique, ce qui est déjà une première surprise. Par contre, le patronat refuse toute idée d'un maintien de salaire. Gesamtmetall est réticent, il faut bien le dire. Il évoque la difficulté à trouver du personnel qualifié, notamment dans le sud du pays où règne quasiment le plein emploi, notamment en Bavière. C'est un problème qui est aggravé par l'évolution démographique. Et puis Gesamtmetall évoque le risque d'inégalité entre les salariés au sein d'une même entreprise, entre ceux qui bénéficieraient des 28 heures et ceux qui n'en bénéficieraient pas. IG Metall rétorque au contraire que davantage de flexibilité aiderait justement à lutter contre la pénurie d'effectifs dans un pays où beaucoup de femmes ne travaillent pas, notamment dans le sud du pays, où le modèle traditionnel de la femme au foyer domine.
Donc Nathalie, est-ce qu'on doit comprendre que l'Allemagne se dirige vers un hiver social tendu ?
Eh bien, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a pu croire, en tout cas, juste après les élections. Il faut rappeler que les sociaux-démocrates ont perdu. La perspective, dans un premier temps, d'un gouvernement Merkel, libéraux, vert, semblait annoncer pour les syndicats qu'ils devraient se débrouiller tout seuls à l'avenir pour défendre les intérêts des salariés, alors que pendant 4 ans, le ministère du Travail avait été occupé par les sociaux-démocrates qui ont imposé à Angela Merkel quantité de réformes comme le salaire minimum, le retour partiel à la retraite à 63 ans, etc. Alors avec l'ouverture prochaine de négociations entre Merkel et le SPD en vue de former le prochain gouvernement, IG Metall pourrait être tenté de ne pas trop gêner justement la formation de ce gouvernement dans lequel les sociaux-démocrates auront un rôle important à jouer.
Nathalie Versieux avec nous depuis Berlin. Merci à vous Nathalie. Je remercie nos débatteurs, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Dans la prochaine demi-heure, avant 10h, mon invité, c'est le président des Restos du Cœur, Patrice Blanc. Et tout de suite, 9h36 sur France Inter, on ouvre un autre dossier, le dossier de la formation professionnelle. La réforme est en cours avec un mot d'ordre, il faut simplifier. Écoutez, vous allez voir ce que je veux dire.
Bonjour.
Bonjour.
Manu Ruffez, France Inter.
Jeanne de Plus. Alors moi j'ai 23 ans, j'ai fait une licence de droit public que j'ai terminée l'année dernière. Actuellement je suis salariée, je fais de la télé-enquête par téléphone.
Mais inscrite à Pôle emploi.
Mais inscrite à Pôle emploi. Et j'essaie de faire financer une formation dans community management. Il faut que ça change parce que déjà au niveau des organismes de financement, il n'y a rien qui peut se faire par mail. On doit envoyer des dossiers quand on nous dit oui, le dossier à compléter, etc. On peut vous l'envoyer que par courrier dans 15 jours. Déjà, ça fait perdre 15 jours sur le délai après de traitement du dossier qui est de 1 mois et demi à 6 mois. Donc déjà, les 15 jours, ils sont perdus parce qu'on ne peut pas nous envoyer le dossier à compléter par mail. C'est hallucinant. Décourageant.
décourageant, hallucinant ou encore inégalitaire, pas assez efficace, coûteux. Voilà les reproches faits depuis des années à tout ce système de formation professionnelle. Et de reproches en réforme, les dispositifs justement se sont empilés, ce qui n'arrange rien. Est-ce que le projet de loi annoncé pour le printemps prochain fera vraiment une différence ? Car voici, après le Code du travail, l'acte 2 des réformes sociales de ce quinquennat. Le mois dernier, patronat et syndicats ont reçu une feuille de route sur la formation professionnelle. Ils ont jusqu'à février pour se réunir, un peu plus de 2 mois pour donc se mettre d'accord sur les priorités, pour tout mettre à plat, pour simplifier par où commencer. On poursuit cette discussion avec Jeanne, notre jeune télé-enquêtrice, salariée précaire. Elle veut devenir community manager avec notre reporter, Manuel Ruffez.
Alors comment ça s'est passé ? D'abord, il a fallu trouver la formation, ça a été simple ?
Non, c'est pas si simple dans le sens où quelle formation, surtout à distance, est mieux qu'une autre, parce qu'elles sont toutes dites certifiantes, mais à différents degrés aussi. On ne sait pas exactement quelle certification on va avoir à la fin. Et finalement, c'est grâce à des copains plutôt que j'ai choisi celle que je vais faire, parce qu'ils connaissaient le site internet, que c'était déjà connu dans le milieu du web.
Le bouche à oreille, quoi.
Le bouche à oreille, ouais.
Comment vous allez financer cette formation ?
Alors, il y a deux types de financement. Soit je la finance par mois seule. Donc là, c'est 300€ par mois sur une base de 12 mois. Et ça peut être financé par des organismes extérieurs. Et dans ce cas, c'est 4320€. Donc c'est un peu plus cher. Et là, il faut trouver les organismes de financement. Et c'est très compliqué.
Donc, deuxième phase du plan, chercher le financement. Et là ?
Donc, il faut faire valider le projet par Pôle emploi. Depuis mi-août, je suis en contact avec ma conseillère là-dessus. Ça permet d'avoir un financement de Pôle emploi qui est de 1500€ et éventuellement une aide par mois pendant la formation qui est d'environ 600€ par mois. Donc c'est vraiment intéressant de l'avoir. Et ensuite, j'ai le compte personnel de formation, sachant que pour l'instant, j'ai travaillé que l'été ou presque, j'en ai pas beaucoup, ça fait 130€ à peu près. Ça me permet d'être financé, d'avoir un abondement du FAFIEC qui est l'OPCA de référence enfin, au secteur dans lequel je travaille actuellement en télé-enquête, de 430€ à peu près.
Donc c'est l'organisme qui perçoit les cotisations des entreprises pour financer la formation. Donc vous dépendez de cet organisme, qui pourrait vous reverser de l'argent ?
Donc du coup il y a ça. Et je suis en contact également pour le reste. Il reste à peu près 2200€. Et pour ces 2000 là, je les demande à l'action sociale de ma caisse de retraite. Aujourd'hui ça fait un mois et demi que tout est parti et j'attends des réponses. Ça avance pas trop. C'est la galère. Franchement, ouais, c'est la galère.
Quand on écoute Jeanne, on se dit qu'on est encore bien loin de la transformation que souhaite le gouvernement. À l'issue de la réforme, en 5 clics, rêve-t-on au ministère du Travail, on pourra s'inscrire soi-même à une formation de qualité, adaptée à son profil et au métier recherché dans son bassin d'emploi. Et ça, ce serait parfait pour Jeanne, jeune, libre, à l'aise avec le numérique, à tel point qu'elle refuse de suivre une formation traditionnelle, hors de question de retourner sur les bancs de l'école, dit-elle. Adapter les formations à ce nouveau public, c'est justement la mission que s'est donnée cet organisme de formation, C-Level.
Alors voilà, on est à Paris, rue Montmartre, et c'est marqué sur la porte C-Level, c'est l'organisme de formation avec qui j'ai rendez-vous. Bonjour,
Bonjour.
Manuel Ruffez, France Inter.
Je suis Patrick Thiel, co-dirigeant de la société C-Level EdTech.
Le gouvernement veut viser spécifiquement, effectivement, vous le disiez, les demandeurs d'emploi et les décrocheurs. C'est un public particulier pour vous, organisme de formation. Il y a un travail particulier à faire.
Oui, évidemment. C'est un public qui nous intéresse pour les accompagner via, là aussi, les outils nouveaux qui sont à notre disposition. Ça vaut pour les demandeurs d'emploi, ça vaut pour les jeunes étudiants, ça vaut pour les salariés, parce qu'on sait qu'on va changer de métier une dizaine de fois dans son parcours, parce qu'on sait que 20% des métiers actuels vont disparaître, parce qu'on sait aussi que 50% des métiers actuels vont se transformer radicalement. Donc il faut apprendre, il faut devenir agile et avec un outil qui est à nos dispositions depuis quelques années mais qui va se renforcer, le digital étant évidemment un fabuleux outil mais au service du cœur de métier, la pédagogie.
Bonjour et bienvenue dans cette formation totalement innovante et interactive.
Nous avons rendez-vous avec le DAF.
Nous avons rendez-vous avec Monsieur Martin.
Si on commente un peu cette vidéo, donc ça c'est une formation. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Non, en fait, je n'ai pas ma pièce d'identité.
Alors cette formation, elle est déjà à destination des jeunes commerciaux sans expérience. Et l'objectif de cette vidéo, à travers le digital, c'est de leur donner les bonnes postures, qui puissent voir les bons comportements à adopter, et puis également ceux à éviter.
Mais on l'a bien vu, la première difficulté à laquelle s'est retrouvée confrontée Jeanne, c'est d'abord de trouver la bonne formation. Il en existe des dizaines de milliers, entre 60 000 et 80 000 selon les comptages, ce qui en dit déjà long. Pour quelle qualité, quel taux d'insertion dans l'emploi ? Le gouvernement veut structurer ce marché, ça doit passer par une transparence des résultats, dit Jean-Pierre Willems, consultant spécialiste en formation.
Moi je suis quand même très surpris qu'on nous dise qu'il y a trop d'organismes de formation en France et je n'ai jamais compris à quoi correspondait ce trop. Et qui pourrait nous dire où il faudrait s'arrêter ? Ce qui correspondrait d'ailleurs à dire à quelqu'un, vous devez arrêter votre activité parce que vous êtes trop nombreux. Ça n'a pas de sens. On est sur une activité de marché. Et donc, on est sur des gens qui, s'ils arrivent à faire leurs activités, eh bien, en quelque sorte, tant mieux pour eux. Ici, c'est une responsabilisation, il me semble, des acheteurs et des consommateurs qu'il faut faire. Alors, le gouvernement veut, et je pense que ça, c'est un bon axe de réforme, de la transparence et peut-être des obligations d'information de la part des organismes de formation sur leurs résultats, sur ce qu'ils font, sur les évaluations, sur les suites de la formation, sur les emplois occupés par les gens qui sont passés chez eux, etc., etc. Je pense que c'est une meilleure voie que d'essayer de réglementer l'activité elle-même, ce qui va générer, comme on le voit actuellement, sur la qualité de la bureaucratie.
Et puis Jeanne s'est cassé la tête sur le financement de sa formation. Là, le gouvernement y va franchement complexe et opaque, dit-il. Dans le viseur, mais jamais cité, les OPCA. Ce sont ces 20 organismes, gérés paritairement par les syndicats patronaux et salariés, qui collectent et distribuent l'argent des entreprises, 1% de la masse salariale consacrée à la formation. Yves Inkint est le patron d'Opcalia, l'un des plus gros. Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Inkint.
Oui, bonjour, je vais le prévenir tout de suite.
Mais alors dites-moi, ce que dit le gouvernement aussi, c'est que l'essentiel pour lui, c'est que l'argent arrive au bon endroit, aux bonnes personnes, les demandeurs d'emploi, les décrocheurs, les salariés, les entreprises qui en ont besoin pour faire la formation, pour mettre à niveau leurs salariés, peu importe les tuyaux. Les tuyaux, on s'en moque. Et les tuyaux, c'est un peu vous. Est-ce que vous vous sentez visé ?
Alors, les tuyaux, c'est pas un peu nous. Les tuyaux, c'est nous. Mais après, quand on évoque une concertation ou une réforme, on ne doit pas évoquer les choses par l'angle des tuyaux. Donc soyons clairs. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, pour les jeunes en alternance ? Qu'est-ce qu'on veut pour faciliter l'accès à la formation auprès de l'individu salarié qui aujourd'hui peut s'appuyer soit sur un congé individuel de formation, soit sur un compte personnel formation ? Simplifions le sujet. Oui, je m'inscris totalement positivement sur cette dynamique. Aujourd'hui, on est peut-être un peu nombreux tous à s'occuper des demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qu'on veut pour les demandeurs d'emploi ? Donc c'est vrai que je vais peut-être être un peu en porte-à-faux avec ma position de directeur d'un OPCA. Le sujet, ce n'est pas de traiter les tuyaux ou le devenir et l'avenir des OPCA. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de traiter les trois thématiques premières.
Partir d'une page blanche pour cette réforme, c'est bien le choix du gouvernement. Avec quelques lignes directrices tout de même, la fusion du congé individuel de formation et du compte professionnel de formation, 0,3% du financement des entreprises dédié uniquement aux demandeurs d'emploi. Pour le reste, le gouvernement demande aux partenaires sociaux de rendre le système plus efficace et moins inégalitaire. Stéphane Carcillo, économiste à l'OCDE, se demande d'ailleurs si, au final, le gouvernement n'aurait pas intérêt à reprendre la main pour un résultat plus sûr.
En France, c'est environ 30 milliards d'euros, hein, tout confondu, État et entreprise, ça fait environ 1,5% du PIB. C'est à peu près, c'est même un peu plus que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il faut que cette formation professionnelle soit fléchée vers ceux qui en ont le plus besoin.
Voilà, je pense que le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'argent pour les demandeurs d'emploi ou pour les personnes qui n'ont pas de diplôme certifiant leurs compétences. Je crois que c'est vraiment l'essentiel. Et la France, aujourd'hui, vu son système de financement de la formation professionnelle, a eu du mal à atteindre cet objectif.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui ont le plus besoin qui sont formés.
Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup effectivement, de salariés qui bénéficient de formation. Alors, c'est formidable pour eux, mais ce n'est peut-être pas forcément la priorité pour notre économie. Il y a pas mal de gens qui ont déjà un premier diplôme et qui ont des formations supplémentaires parce que le système, jusqu'à présent, incitait beaucoup les entreprises à dépenser en formation, sinon elles devaient payer une taxe.
Quel regard vous portez sur le système de financement de la formation professionnelle qui a l'air très complexe ?
Ah, il est extrêmement complexe en France et c'est l'accumulation de plusieurs réformes, de plusieurs systèmes. C'est un circuit pas toujours extrêmement transparent. L'argent, effectivement, ne va pas directement aux demandeurs d'emploi ou aux salariés, mais transite par des organismes. C'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est un des gros enjeux aussi de la réforme actuelle, c'est de simplifier ce circuit pour le rendre un peu plus transparent et que l'argent aille, du coup, aux personnes qui en ont le plus besoin.
Est-ce que les partenaires sociaux qui sont jugés partis dans cette histoire sont les mieux placés pour mener cette réforme ?
En tous les cas, il faut clairement se concerter avec eux. Je ne sais pas si c'est eux qui doivent donner le mot final de la réforme, mais clairement, il faut leur demander leur avis. Maintenant, c'est vrai qu'avoir laissé uniquement aux mains des partenaires sociaux ces dernières années l'essentiel des réformes de la formation professionnelle a abouti à des réformes vraiment en demi-teinte. Donc on voit bien que si on veut réussir la réforme cette fois-ci et être un peu plus ambitieux, il faut clairement que le gouvernement prenne ses responsabilités et aille peut-être plus loin, si nécessaire, que ce que les partenaires sociaux auront négocié.
Vers la réforme de la formation professionnelle, le projet de loi est attendu au printemps. C'était le reportage de Manuel Ruffez.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et ce samedi, un des 71 000 bénévoles des Restos du Cœur est venu s'asseoir avec nous dans le studio 521. C'est le président. Bonjour Patrice Blanc.
Bonjour.
2017, nous dans le magazine de l'Écho, on en a beaucoup parlé, c'est la reprise de l'économie. Est-ce que pour vous, au Restos du Cœur, ça change quelque chose?
Alors, on l'a constaté très localement, je pense à Saint-Nazaire par exemple, pour avoir été il y a quelques mois au centre des Restos de Saint-Nazaire, une diminution du nombre de personnes accueillies. Mais c'est vraiment très ponctuel à un endroit sur un bassin d'emploi précis. De façon générale, la réponse malheureusement est non. On a actuellement le début de la campagne d'hiver avec une augmentation des inscriptions.
Et toujours un profil qui se féminise de plus en plus, où l'on voit de plus en plus d'enfants?
Oui, alors la majorité des personnes qui viennent sont des familles monoparentales et quand je dis famille monoparentale, ça veut dire essentiellement des mamans avec seules avec enfants. C'est 60% des personnes qu'on accueille.
Donc lorsque le gouvernement lance cette semaine sa concertation sur la pauvreté et qu'il dit nous on va cibler en priorité les jeunes, les enfants, ça c'est le bon fil à tirer,
oui,
Patrice Blanc ?
Oui, je pense que ça c'est tout à fait cohérent hein, comme démarche, en ne séparant évidemment pas les enfants de leur famille. Alors certes, il y a la question très particulière des mineurs étrangers isolés, mais de façon plus générale, la lutte contre la pauvreté passe par le soutien aux parents, aux familles et aux enfants, effectivement.
Lutter contre la pauvreté, c'est un problème d'argent, c'est un problème d'accès à des droits, à des services?
Alors, la pauvreté, elle est matérielle, d'abord, ça c'est certain. Les personnes, j'entendais tout à l'heure le débat sur le SMIC.
J'aimerais bien qu'on en parle tous les deux, oui.
Voilà, donc évidemment, les revenus jouent un rôle essentiel. Vos débatteurs n'ont pas évoqué la question du seuil de pauvreté, mais c'est également un point important où le RSA, la majorité des personnes qu'on accueille sont au niveau du RSA, voire en dessous. Mais on a quand même quelques travailleurs pauvres. Hein. Sur les 900 000 personnes qu'on accueille, on doit avoir à peu près autour de 40 000 personnes qui ont un contrat de travail. Mais c'est souvent un travail à temps partiel, un travail intérimaire, précaire. Enfin, voilà. Donc, question
oui, d'abord
des
l'argent,
revenus,
mais
l'argent,
aussi, ouais.
Mais aussi l'isolement. La pauvreté, c'est aussi un phénomène qui isole les personnes. Et c'est un cercle, si vous voulez, hein, qui vous entraîne vers le fond. Hein. Beaucoup des gens qui sont au resto, en fait, c'est à la suite d'accidents de la vie qu'ils ont eus, et notamment de ruptures familiales. Et là, la pauvreté, donc, c'est ça vous isole du reste de la société. Et donc, du coup, vous ne faites pas valoir tous les droits auxquels vous pouvez prétendre. Et une de nos actions importantes à côté de l'aide alimentaire, c'est aider les personnes à recouvrer leurs droits.
Patrice Blanc, je reviens donc, puisque vous avez envie d'en parler sur cette question du SMIC, lorsque vous entendez en effet cette affirmation qui est présente dans le rapport des experts. Le SMIC est trop élevé, ça c'est ceux qui regardent le coût du travail, et donc l'employabilité, et le SMIC n'est pas assez efficace, quoi qu'on fasse, contre la pauvreté. Comment le président des Restos du Cœur y reçoit ça?
Alors, si vous voulez, moi, en tant que Restos du Cœur, on n'a pas dicté la politique économique du gouvernement. Ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que tout ce qui améliorera le pouvoir d'achat sera positif, d'une part, mais également que la lutte contre le chômage est essentielle. Alors, le meilleur outil, ça n'est pas à moi de le dire. J'embraye en même temps sur le deuxième débat que vous avez eu sur la formation. C'est essentiel.
Le reportage, oui.
Pour nous, on le constate avec la mise en place d'ateliers et de chantiers d'insertion. l'insertion par l'activité économique est un outil exceptionnel, pour notamment pour les personnes très éloignées de l'emploi. On a des jardins du cœur, on a dans les ateliers logistiques, hein, puisque on a des entrepôts logistiques dans chaque département pour faire circuler les produits alimentaires. Là, on a des personnes qui sont en situation d'emploi, de formation, et qui parfois viennent de très très loin de l'employabilité. Et c'est un outil fantastique, mais avec là aussi, ce qui a été évoqué dans le reportage, des difficultés d'articulation de financement, parfois, entre Pôle emploi, les OPCA, Uniformation, en l'espèce. Enfin, voilà. Donc là, on attend beaucoup, quand même, de la prochaine loi pour améliorer les choses, mais vraiment, pour que le financement, puisqu'il y a une partie de financement public de ces contrats, soit maintenu ces contrats en insertion par l'activité économique.
Je passe au sujet du financement des Restos du Cœur. Vous êtes la deuxième association qui en reçoit le plus de dons. Certaines associations s'inquiètent des réformes fiscales qui vont toucher ceux qui donnent beaucoup, c'est-à-dire les retraités, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'ISF et qui donc bénéficiaient des réductions fiscales. Patrice Blanc, est-ce que le financement de l'action des Restos du Cœur en 2018, ça risque d'être un problème ?
C'est un point d'interrogation. Alors, pour le moment, nous ne sommes pas inquiets, si vous voulez, au vu des dons qui commencent à arriver, d'autant qu'on a bien indiqué aux donateurs et aux futurs donateurs l'importance qu'on accorde à la rigueur de notre gestion avec des frais de gestion extrêmement réduits, à 7,5%.
Mais la CSG, l'ISF voilà, qui est supprimée alors, quand même, vous avez fait des projections là-dessus ?
Oui, alors là-dessus, c'est assez difficile à savoir. Bon, au niveau de l'ISF, c'était ce que nous utilisions précisément pour les chantiers d'insertion, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, on a une vraie inquiétude, hein, mathématiquement, il est évident que ça va se réduire. Alors, pour l'aspect CSG, voire même pour la mise en place du système de retenue à la source, hein, même si la déductibilité, hein, la loi Coluche restera en vigueur, on ne sait pas exactement quel va être le comportement psychologique des contribuables à ce moment-là. Donc, oui, il y a une inquiétude sur l'avenir, mais pour le moment, je touche du bois, ça reste stable.
Patrice Blanc, il y a cette petite musique sur la politique, vous n'avez pas envie de parler politique, mais moi je vous en parle, sur la politique du président des riches, vous qui êtes aux côtés des pauvres, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite musique ?
Alors, moi, si vous voulez, on a constaté avec plaisir, hein, la venue d'Emmanuel Macron au moment du lancement de notre campagne d'hiver. Alors, qu'il soit président des riches ou qu'il ne le soit pas, à vrai dire, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est j'aimerais qu'il soit président des pauvres.
Et l'est-il ? Que fait-il ? Je pense aux APL, je pense... voilà. Alors, que se passe-t-il ?
On le verra sur le fond des choses avec les propositions concrètes qui seront faites par le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, qui doit rendre... ces propositions en mars.
Donc vous jugerez en mars.
Voilà, on l'attend sur les actes.
Dernière...
Et sur les... Évidemment, il faut que ces actes trouvent un financement.
Dernière question, Patrice Blanc. Les restos ont aussi quelques centaines de lits pour l'hébergement d'urgence. Hier, vendredi, des associations, plus grosses que la vôtre sur ce thème-là, ont claqué la porte du ministère de l'Intérieur. Pour faire simple, elles refusent que des contrôleurs entrent dans les centres d'hébergement pour faire le tri des sans-papiers. Quelle est la position des Restos du Cœur ?
Alors, la position des Restos du Cœur là-dessus, elle est très claire. Ça date de longtemps, hein. Ça date de l'époque où Mme Alliot-Marie était ministre de l'Intérieur. Elle avait indiqué, elle avait confirmé la sanctuarisation des lieux d'accueil des personnes démunies. Et pour nous, c'est un principe qui doit être respecté.
Donc, pas question de les laisser entrer ? Pas question de faire le tri ?
Après, si un juge l'ordonne, on respecte la décision du juge.
Mais vous êtes opposé ?
Voilà.
Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur. Merci d'avoir été sur France Inter.
C'est moi qui vous remercie.
Ma vie au boulot. Sandrine Foulon.
Sandrine, question de Thierry pour Ma vie au boulot. Thierry qui dirige une petite entreprise à Mulhouse. Un huissier lui demande de saisir le salaire d'une salariée. Il ne veut pas se mêler, Thierry, de sa vie privée à cette salariée. A-t-il le droit de refuser ?
Non, Thierry, la réponse est claire. Vous n'avez pas envie de savoir qu'une salariée ne rembourse pas son écran plat ou qu'elle entretient une phobie administrative avec sa taxe foncière. Mais voilà, vous êtes obligé de mettre en place cette saisie sur salaire. Si vous ne le faites pas, le juge peut vous déclarer débiteur et vous oublier et vous vous obliger à payer à la place de la salariée. Vous préféreriez sans doute que le créancier s'arrange directement avec la banque de cet employé pour prélever les sommes sur son compte. Mais c'est justement parce que des personnes n'ont pas beaucoup d'économies ou de biens immobiliers que le juge peut décider d'ordonner cette saisie sur rémunération. Pour un créancier, le salaire reste le plus sûr moyen d'être un jour remboursé. Pour protéger le parent qui élève seul ses enfants, la loi sur l'égalité femmes-hommes autorise par exemple la CAF à saisir sur salaire jusqu'à 2 ans de pension alimentaire non payée. Attention tout de même Thierry, l'administration, un huissier de justice peuvent vous demander de vous impliquer dans une saisie sur salaire, pas un organisme de prêt à la consommation, il n'a pas le droit de s'adresser directement à vous.
Et ça c'est un fait important. Sandrine, comment Thierry doit-il procéder? Est-ce que ce chef d'entreprise doit ponctionner une partie du salaire, la totalité du salaire?
C'est le tribunal qui fait les calculs selon des barèmes très précis en fonction de leurs moyens et du nombre de personnes à charge. Les plus modestes devront rembourser tous les mois entre 1/20 de leur salaire et jusqu'à la totalité pour les plus riches. Mais dans tous les cas, une somme minimale équivalente au RSA, c'est-à-dire 545 € ne pourra pas être prélevée. Dernier détail, ce prélèvement mensuel doit figurer impérativement sur la feuille de salaire. Thierry, vous ne pouvez pas éviter cette procédure, mais vous pouvez toujours conseiller à un salarié de monter un dossier de surendettement. C'est la seule chose qui puisse suspendre les saisies sur rémunération dont on ne connaît pas le nombre. On sait juste, par la Banque de France, que 200 000 personnes ont déposé un dossier de surendettement l'an passé, pour des dettes de 42 000 € en moyenne. C'est 10% de moins qu'en 2015, car les gens contractent moins de crédit à la consommation. C'est déjà ça, mais en matière de saisie sur salaire, c'est bien plus souvent une affaire de pension ou d'impôts qui ne sont pas payés.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Vous pouvez retrouver la chronique, nous réécouter, voir la vidéo de notre invité, le président des Restos du Cœur, sur la page franceinter.fr. Et pour le Mag Éco, rendez-vous la semaine prochaine.